favellate a me pur se non vescuro, creature fantastiche il futuro.
Che faceste, l'un des chœurs de sorcières tiré du premier acte de Macbeth de Giuseppe Verdi. Claudio Abbado dirigeait le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, avec en soliste Piero Cappuccilli dans le rôle de Macbeth et Nikolai Gurov dans celui de Banquo. Il existe plusieurs formes de magie. Je vous ai parlé hier de la magie noire qui anime les sorcières, notamment de Macbeth, à laquelle s'oppose la magie blanche que l'on utilise pour combattre les forces du mal. Mais il y a également tout ce qui relève de la féerie, qui se caractérise par le recours à des sujets merveilleux, souvent inspirés des contes de fées, mettant en scène des créatures surnaturelles. La féerie est un genre théâtral à part entière qui connaît ses plus grands succès en France et en Allemagne au XIXe siècle. Mais on en trouve également des exemples au début du XXe siècle, notamment dans L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, un opéra écrit sur un livret de l'écrivain Colette. La célèbre romancière met ici en scène la révolte des animaux et des objets contre la méchanceté d'un enfant capricieux et pervers. Sa collaboration avec Ravel donne naissance à une fantaisie lyrique que Ravel a eu quelques scrupules à qualifier d'opéra. L'histoire est la suivante. Alors qu'il ne veut pas faire ses devoirs, l'enfant tire la langue à sa maman, qui le punit. Rageur, il passe sa colère sur les animaux et les objets autour de lui. Mais ces derniers prennent vie et décident de se révolter contre cet enfant méchant. Commence alors le ballet de sortilèges imaginé par Colette. Le fauteuil, le canapé et la bergère se dérobent. L'horloge, dont le balancier est cassé, pleure son désespoir. La théière et la tasse dansent un ragtime. Le feu de la cheminée le menace. Le pâtre et la pastourelle de la tonture déchirée se plaignent de leur sort. Une princesse d'un conte et un vieillard d'un livre à arithmétique lui expose leurs problèmes. Un duo miaulé de chats ne le laisse pas dormir. L'histoire se veut un véritable parcours initiatique, avec une atmosphère de féerie et de magie qui joue sur une très large palette de registres musicaux. On y passe sans transition du musical au jazz, en passant par l'opéra italien et la polyphonie antique. Les sortilèges agissent comme des révélateurs du bien et du mal, et les métamorphoses délivrent une leçon de vie à ce petit homme sadique et coléreux, auquel il ne reste plus que l'appel final « Maman » pour effacer tant de terreur et accéder enfin à la bonté. Je vous propose de vous laisser emporter par la féerie de Ravel.
Ça m'est égal, justement, j'ai ma faim, Justement, j'aime beaucoup mieux rester tout seul. Je n'aime personne. Je suis très méchant, 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 méchant.
Cacher ma honte, son hérésie à mon âge. Moi, moi, qui sonnais de douces heures, heure de dormir, heure de veiller, heure qui ramène celui qu'on attend. Heure bénie, où ne guille mes soins d'enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
How's your mug?
Rotten.
Better hard.
Come on.
Black and coarse to black and cheek. Black, black, black. Jolly fellow, jolly fellow, black. I punch your nose. I punch, I knock out you stupid shows. Black, black, and thick, and label boss, and label boss. I box you, I box you, I'm a bloody woman.
Ma belle tasse chinoise, un extrait de L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel qui donne vie ici à toutes sortes d'objets et d'animaux qui se révoltent contre la méchanceté d'un enfant gâté. Mikko Frank dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec une brillante palette de solistes dans lesquels on relèvera Nathalie Stutzmann dans le rôle de la maman, Sabine de Vielle en princesse et Chloé Brio dans le rôle de l'enfant. Un enregistrement paru en 2017. Merci d'écouter Espace 2. Nous allons refermer notre grimoire magique avec une dernière incantation, celle que le compositeur français Henri Thomassy conjure dans sa féerie laotienne. Sous ce titre se cache un ballet qui a été présenté sur scène pour la première fois en 1939. Thomassy en a ensuite tiré un poème symphonique et une suite pour piano. La féerie laotienne raconte l'histoire de Neang Ti, qui a été choisie par le prince Djali pour être sa nouvelle favorite. Celle-ci arrive sur la terrasse du palais en cortège solennel, accompagnée des prêtres et des danseuses. Ému par la beauté de sa promise, le prince lui remet des trésors que la jeune fille s'empresse de refuser car elle en aime un autre, un jeune chasseur qui la supplie de partir avec lui. Jaloux, le prince prend soin d'éloigner son rival et ordonne à Neang Ti de rester seule toute la nuit sur la terrasse pour faire une prière silencieuse à la pleine lune. La jeune femme danse devant l'astre. C'est alors que le chasseur réapparaît et fait appel à deux puissants sorciers. Ils tracent des cercles magiques et font apparaître un dragon de la fumée qui monte vers le ciel. Le dragon dévore la lune. Les prêtres du prince, terrifiés, se prosternent alors que les deux amants sont illuminés par un halo lumineux et sont bénis par le Bouddha. Devant ce miracle, le prince leur pardonne et le dragon redevient vapeur et libère la lune. La foule acclame Neang Ti et le jeune chasseur qui danse pour célébrer leur amour comblé. Dans cette œuvre, Thomassy évoque les sonorités de l'Extrême-Orient en utilisant des gammes pentatoniques, des harmonies modales, des quintes parallèles et des rythmes syncopés qui rappellent aussi les timbres du jazz. Si certains des mouvements ne sont que des interludes très courts dans la narration, d'autres ont des proportions quasiment plus symphoniques. Le critique musical et compositeur Émile Vouliarmeau écrit à propos de cette féerie laotienne qu'il avait, je cite, « goûté dans son orientalisme une spontanéité, une liberté et une personnalité infiniment plus précieuse que tout ce que peuvent nous livrer l'érudition et les traditions du style exotique. Des trouvailles de timbres nous restituent non pas les instruments de là-bas, ce qui serait bien peu de chose, mais l'esprit et la poésie de ces instruments. De cette féerie laotienne, voici quelques extraits successivement l'invocation à la lune, pantomime, la danse des sorciers et les cercles magiques. On quitte sur la pointe des pieds cette danse des sorciers tirée de la féerie laotienne, une suite pour piano tirée d'un ballet du compositeur français Henri Thomassy. Émilie Capulet en était l'interprète. Ainsi prend fin à ces sortilèges et ces malédictions présentées aujourd'hui dans l'oreille d'abord et mises en ondes par Jérôme Nussbaum. Merci de votre fidélité. À demain, portez-vous bien. Il est 17h30 sur Espace 2. Vous êtes attendus dans des Masters sur les ondes.
Bonjour, Ivor Malherbe au micro. Dans À vol d'oiseau, ce vendredi 30 mai à 19h30, je vous invite au Théâtre de Carouge à un concert donné par la Geneva Camerata autour d'un répertoire qui va nous faire parcourir la Grèce. Des musiques perses aux musiques des Balkans, musiques de Crète ou des îles avec des solistes invités grecs, évidemment, la chanteuse Erini, le violoniste Simos Papanas et le oudiste Timios Atsakas. Plus une petite formation magique issue de la Geneva Camerata, ça donne envie de danser. Je vous attends ce vendredi sur RTS Espace 2 et quand vous le voulez, bien sûr, sur Play RTS.
Bazar, Sébastien Pache.
Oui, bazar. Pas les masters sur les ondes. Alors, des masters, il va y en avoir, mais pas ceux-là. Bazar, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, écoutez de la musique, parce que c'est ce qu'on va faire. C'est saisir une occasion de se taire. Ça n'est pas systématiquement valable lorsqu'on s'exprime en musique, puisque, par exemple, l'art lyrique demande précisément d'ouvrir sa bouche. Force est de constater qu'on ne parvient pas à concilier les deux. Mais pour ce qui est de la musique instrumentale, ça, on peut le faire dans le silence total. Respiration bruyante exceptée. L'avantage de cet échange tacite, c'est qu'on ne perd pas en moyens d'éloquence. On gagne même à se la coincer un petit peu de temps en temps. Bien sûr, si on prend l'exemple de l'orchestre, parce qu'on va en entendre de l'orchestre, il y a des grands bavards, comme Georg Scholti, chef qui rentabilisait son temps de répète en ne répétant précisément rien et en donnant ses remarques pendant qu'il descendait droit bas les pièces. Ça, alors, on l'adorait, il coûtait pas cher. Enfin non, c'est pas vrai. Mais il y avait aussi les grands taiseux, plus poétiques, plus dans l'introspection, comme Claudio Abbado, poignet fluide, bouche néanmoins entr'ouverte, qui guidait par la toute-puissante rhétorique de son non-verbal. D'ailleurs, si les chefs morts vous intéressent, écoutez les références à midi sur RTS Espace 2. Les gens sont souvent morts. Quant à parler du fait de se taire, oui, j'ai l'avantage de passer de la parole aux actes. Je vous dis bonsoir. El Puerto, le deuxième mouvement d'Iberia d'Isaac Albéniz. Jesús López Cobos à la direction de l'Orchestre Symphonique de Cincinnati. Hier soir, nous avons terminé presque cette même émission avec un extrait de ce disque. Je me suis dit qu'on allait commencer avec ça ce soir. Voilà. Bazar, bonsoir d'ailleurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour partager notamment de la musique, et de la musique lyrique, et comme tous les soirs à 18h00 pour notre séquence opéra, passage à l'acte. Cette semaine, je vous propose un opéra au langage plutôt contemporain. Il s'agit du Nez de Dmitri Chostakovitch. Ce soir, donc, pour le deuxième épisode, je vous demanderai de l'indulgence vis-à-vis des possibilités de cette musique qui sortent peut-être un petit peu du contexte, allons-nous dire, euphonique habituel de l'opéra. Voilà, c'est une œuvre caustique, c'est une œuvre rigolarde, c'est une œuvre qui questionne et c'est une œuvre assez drôle aussi. C'est surtout pour ça que nous l'avons choisi. 18h donc pour l'opéra. Et puis à 18h30, ce sera l'heure du concours de bazar avec ce soir, comme tous les soirs, une archive censurée. L'archive de ce soir nous emmène quelque part entre le Valais et l'ailleurs. Tiens, ça c'est un genre d'indice assez sibyllin, c'est tout ce que je vous dis pour le moment. Ça se passera par email sur les à peu près de 18h30. Bazar, c'est aussi avec Luigi Boccherini.
Te liberter sociare,
Sandrine Pillot, accompagnée de l'orchestre Pulcinella, dirigé par Ophélie Gaillard, dans un numéro du Stabat Mater de Luigi Boccherini, Tui Nati Vulnerati. Je ne dirais pas mieux, si ce n'est que nous allons entendre maintenant une magnifique transcription pour piano et orchestre d'un concerto pour clavecin de Johann Sebastian Bach par l'excellente Beatrice Rana.
Thank you.
Le funèbre adagio du premier concerto pour clavecin, cordes et basses continues ré mineur BWV 1052 de Johann Sebastian Bach, interprété au piano par Beatrice Rana. Elle a été accompagnée de l'Amsterdam Sinfonietta sous l'archet, c'est pas la baguette puisqu'elle joue, de Candida Thompson. Vous écoutez Bazar sur RTS Espace 2. Du piano, nous passons à l'orgue avec quelque chose d'un peu festif, un mouvement tiré d'un concerto pour cet instrument de Georg Friedrich Händel. Certaines personnes trouvent ce genre de musique pas tellement festif. Écoutez, ça dépend du terme, ça dépend de comment on conçoit la notion de fête. La fête peut être solennelle. Il y a le festli, le feierli. Là, il y a plus du feierli, c'est avec du trémolo dans la voix. Une forme de solennité consentie et disciplinée. Bon, voilà, c'est le quatrième mouvement du concerto pour orgue et orchestre en ré mineur de Georg Friedrich Händel. Richard Egger était au clavier, accompagné de l'Académie de musique ancienne de Londres. Juste derrière cette charmante musique concertante pour trompette, nous allons passer à l'opéra.